France Culture. Sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio.
DAB+. DAB+. Trois lettres pour une révolution de la radio.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
Comment les drogues agissent sur votre cerveau et en perturbent le fonctionnement? Retrouvez des expériences sonores ludiques et leur analyse avec la chercheuse en neurosciences Morgane Besson.
Votre cerveau, il a un mécanisme d'apprentissage vraiment très puissant qui permet d'associer la récompense avec l'action qui a permis d'obtenir cette récompense.
Votre cerveau, la collection de podcasts originaux de France Culture revient avec une nouvelle saison sur les mécanismes de l'addiction. 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Tout de suite, on retrouve Aurélie Luneau.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Qui aurait pu anticiper quand même pas un an, on soit partout.
Banlieue climat.
Une association qui veut former un maximum de jeunes de quartiers populaires aux enjeux climatiques.
Le sujet le plus déterminant de ces prochaines années n'était soi-disant pas fait pour nous.
En tant que jeune de quartier, on se dit que le climat, c'est un truc d'élite. Genre, c'est pas un truc fait pour nous à la base.
Mais on a mobilisé des centaines et des centaines de jeunes partout en France.
Je me doutais que c'était grave, et pourtant que ça.
Alors que l'écologie populaire avait du mal à s'imposer, on est arrivé avec une formation de 9 heures qui montre concrètement les impacts de la question écologique. Les particules fines qui provoquent des cancers, l'alimentation, les sécheresses et les pénuries d'eau qui arrivent. On a tout vu.
Écologie et banlieue, entre injustice et violence climatique, des habitants s'engagent. En effet, face aux inégalités environnementales, sociales et climatiques, des résidents de cités, de quartiers populaires, de banlieues choisissent d'agir et d'être des acteurs de la transition. Comment s'opère cette mutation et quels en sont les enjeux et les contraintes? Pourquoi est-ce une nécessité? Comment les villes peuvent accompagner le changement et réinventer le vivre en ville avec comme ambition la justice climatique et sociale? Avec nous pour en discuter, Féris Barkat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de l'association Banlieue Climat et enseignant à la Sorbonne. Et avec nous, Nadine Roudil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur des universités à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, et vous êtes rattaché au Centre de recherche sur l'habitat, équipe de recherche de l'UMR-CNRS La Vue. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à nos auditeurs, bien sûr, à vous tous, dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Célestine Babinet, avec à la collaboration Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Anne de Lavaux-Delina, Eva Canneparo et Christine Anzano de la documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Nicolas Leroulet.
Cette insouciance, on l'a perdue trop vite. On l'a perdue le jour où on a réalisé que toute notre génération allait faire face aux pandémies, aux guerres, aux catastrophes climatiques. Nos parents, nos banlieues subissaient déjà plus que les autres. Alors pourquoi perdre la parole? Les particules fines qui provoquent des cancers, l'alimentation, les sécheresses et les pénuries d'eau qui arrivent, tout. On a tout vu.
En tant que jeune de quartier, on se dit que le climat, c'est un truc d'élite. Genre, c'est pas un truc fait pour nous à la base.
Vous doutez que c'était grave, et pourtant que ça.
Banlieue, climat, pour vous servir.
En un an et demi, on a lancé ce mouvement qui nous dépasse, et maintenant, on n'a plus aucune limite. Une infiltration au palais de Tokyo.
Hier soir, on s'est infiltré au palais de Tokyo.
François Hollande au quartier. Créer notre propre diplôme et la première école de l'écologie populaire. Bref, on va pas s'arrêter. Quand notre identité devient un acte militant, c'est à ce moment-là qu'on perd notre insouciance. Mais je vous le dis, on va la retrouver.
Qui nous fasse rêver.
Pour toutes celles et ceux qui nous font confiance.
Qui nous rappellent qu'on peut encore sauver le monde, même venant d'une banlieue.
Soyez prêts, parce qu'on va faire des grandes choses.
Quelques extraits de vidéos que l'on trouve justement sur YouTube, hein, c'est produit par Banlieue Climat, celle-ci datait du 16 juillet 2024. Féris Barkat, la banlieue fut votre terrain de vie à Strasbourg, dont vous êtes originaire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire déjà, pour commencer, ce lieu de vie qui était le vôtre? C'était le quartier de Königshofen, c'est ça, un quartier populaire en périphérie de la capitale alsacienne.
Alors oui, non, moi j'ai eu effectivement plusieurs parcours et plusieurs endroits où j'ai pu vivre. Et effectivement, ma famille vient de Königshofen, donc c'est là où j'ai pu aussi beaucoup être et habiter. Après, on est parti à Elkirch-Grafenstaden, donc un peu plus loin, mais en même temps plus pavillonnaire. Et parce que ma famille, en tout cas ma mère et mon père, ont toujours voulu que je quitte le quartier. Donc ça a été des relations assez complexes entre différents territoires et peut-être aussi une quête identitaire où malgré la peur de mes parents, malgré le fait qu'ils étaient très attachés au fait que je sois, que j'ai une bonne éducation, que je sois avec des bonnes fréquentations, bah, parfois je retournais là où je devais aller peut-être quand t'es jeune et que t'es un peu perdu, quoi.
Et oui, et donc ça vous a amené à quitter peut-être aussi une certaine solidarité aussi dans ce quartier, des amis, mais au moins pour essayer de suivre les ambitions de vos parents qui essayaient de vous tracer une autre voie, c'est en dehors de ce quartier, c'est ça?
Ouais, effectivement, pour le lycée. Ça, c'est arrivé au lycée quand j'ai été dans un lycée privé qui était assez bourgeois, on va dire. Et donc, effectivement, il y a des moments où tu t'intègres, où tu t'assimiles, parce que c'est très compliqué de savoir où t'habites et qui tu es quand ton environnement et les gens autour de toi te renvoient à soit des a priori ou tout simplement juste te font sentir que ton être peut dépasser et qu'il faut pas que ça dépasse dans ce genre de cadre. Moi, je me souviens de la première journée de porte ouverte au lycée où j'étais venu en sacoche survêt parce que juste c'était mon...
Votre quotidien.
D'habitude, oui. Voilà, il n'y avait pas de revendication particulière. Et puis, il y a une jeune fille qui me dit « mais ça va pas être possible, la sacoche ». D'ailleurs, tout ne va pas être possible. Ah ok, d'accord, intéressant. Et j'ai capté un peu l'environnement dans lequel j'allais être. Et forcément, je pense qu'inconsciemment, quand tu viens tout seul, d'où la question du collectif qui est devenue très importante pour nous, quand on vient tout seul dans un environnement, il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'on peut avoir à s'adapter, surtout quand on est issu de trajectoires issues de la migration postcoloniale. On a été habitué à s'adapter constamment. On a été habitué à se fondre constamment dans la masse. Et ça lisse.
Alors, vous parliez de ce lycée, il faut rendre aussi hommage à une professeure d'histoire-géographie en troisième qui vous dit que, malgré les petites conneries, hein, c'est ça dont vous parlez, Féris Barkat, vous aurez un bel avenir et elle vous fait une lettre de recommandation pour avoir une place dans un bon lycée de Strasbourg. Et puis, on peut aussi parler d'un professeur de philo au lycée qui a abordé la question climatique et celle du progrès. Avant de donner la parole à Nadine Roudil, vous étiez donc dans cet univers-là sans forcément, à ce moment-là, ressentir justement ces... L'association de ces deux termes, hein, climat et banlieue, ils n'étaient pas liés du tout.
Non, du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est ça qui est le plus vicieux et le plus dangereux, c'est que les violences, on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte. On les vit, mais on ne les voit pas toujours. Et donc, effectivement, comme la plupart des gens, que ce soit la maladie, que ce soit la question de l'alimentation, que ce soit les questions des oppressions de manière générale, tu ne les conscientises pas forcément. Moi, j'ai pu avoir la question du contraste qui est arrivé dans ma vie très vite, notamment avec la vie de mon père, qui était ouvrier, qui l'est toujours. Et donc, tu constatais les séquelles physiques que ça pouvait entraîner. D'autres parents qui étaient dans la même usine que mon père, mais à des statuts différents, et qui avaient d'autres sociabilisations, d'autres capital culturel, symbolique, qui était différent des nôtres. Du coup, t'es là en mode, ah ouais, tu compares un tel, il est dans le même environnement que mon père, il est dans la même usine, il est dans le même travail, mais il fait pas la même chose tous les jours et il s'abîme pas la santé de la même manière.
Ouais,
et
c'est là où il n'est pas exposé de la même manière aux mêmes pollutions, c'est ce que vous dites.
Aux mêmes pollutions, aux mêmes violences, et donc à ce moment-là, tu comprends par contraste. La question des inégalités.
Nadine Roudil, tout d'abord peut-être, partons d'une définition indispensable. Qu'entend-on par quartier populaire, par banlieue ?
Alors, déjà, la question des quartiers populaires ne se résume pas forcément aux banlieues. C'est-à-dire qu'on a une très grande variété de populations qui peuvent, on va dire, être rassemblées sur une étiquette qu'on pourrait considérer comme populaire. Donc, c'est absolument non homogène, c'est complexe. Il y a des populations qui vivent en ruralité qui sont rattachées aux classes populaires, des populations qui vivent en ville sans être rattachées, bien évidemment, aux quartiers dits populaires. Oui. Et surtout, ben, ça renvoie aussi à différents types d'habitats, d'âge, de population. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que souvent, on met sous ce chapeau une petite partie de ces quartiers qui sont sous régime politique de la ville. Et là, du coup, il y a tout un lexique qui s'est développé autour de quartiers sensibles, de quartiers en situation de grande pauvreté. Et en réalité, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la notion de quartier tel qu'on on en discute depuis tout à l'heure, elle ne correspond pas forcément aux habitants, c'est-à-dire ils ne se reconnaissent pas forcément dans cette notion-là. Donc on est véritablement dans quelque chose qui est assez rassemblé derrière un certain nombre de quartiers qui sont placés sous le regard de l'institution et à partir desquels on développe tout un discours très accentué autour des questions d'insécurité, autour des questions de mots divers, et on oublie justement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire que ce sont des quartiers qui sont en prise aux questions d'inégalité environnementale de manière extrêmement forte et depuis très longtemps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, depuis que je travaille sur la question de ces quartiers, on les interroge toujours à partir des enjeux de la société française. Et là, on est dans une situation d'enjeu environnemental. Donc, on va chercher à interroger d'une manière spécifique la question des quartiers populaires. Or, je pense que ce qui s'y passe en termes d'environnement, c'est aussi des pratiques ordinaires et une prise en compte ordinaire de la question qui nous touche toutes et tous. Et il n'y a pas véritablement de différence dans la façon dont on s'estime ou pas réceptif par rapport à cet enjeu-là.
Et ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas neutre d'associer les termes quartier populaire et enjeux environnementaux.
Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout, dans la mesure où ça renvoie à la fois une vraie réalité que Ferris a très très bien décrit, c'est-à-dire que ça renvoie à des questions de santé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont malades d'un certain nombre, on a installé aussi parfois des grands ensembles dans des zones qui étaient industrielles avec un certain nombre de problèmes de pollution. Très forte.
Et historiquement, ce sont des lieux qui ont toujours subi des pollutions diverses, de pollution des sols, atmosphériques, des eaux, comme l'ont bien renseigné d'ailleurs deux historiens, François Jarige et Thomas Leroux, dans le livre La contamination du monde. Oui. On prend vraiment tout cela en considération et ça résonne effectivement beaucoup avec ce qui continue à perdurer aujourd'hui. Il suffit de prendre le cas d'Epiphase pour considérer que là aussi il y a des problèmes aussi de population sur ces territoires. Dans votre cas, Ferris Barkat, il y a eu plusieurs déclencheurs finalement. Je parlais de ce professeur au lycée qui a abordé la question climatique, celle du progrès. Est-ce qu'on peut dire que la disparition de votre mère, victime d'une tumeur au cerveau, a été un déclencheur? Vous étiez alors étudiant en philosophie à la London School of Economics, pas des moindres, sensibilisé déjà là-bas au sujet climat par des associations étudiantes, et vous décidez de rentrer pour être au plus près de votre maman. Ça a été vraiment un déclic pour vous, ce moment-là?
Déjà, je voulais noter que c'est très factuel tout ça. Effectivement, c'est rare que des journalistes aient autant les bonnes informations.
On travaille.
Mais oui, effectivement, ça a joué. Après, ce qu'il faut pas non plus faire comme raccourci, c'est penser qu'il y a des liens de causalité directe entre les maladies. J'aimerais pas envoyer un mauvais message. On n'est pas toujours au courant de ce à quoi on est exposé. Là, on parle de pollution de l'air. Il y a la question du mercure et la question du mercure dans le sang et dans les organismes qui créent des maladies neurodégénératives qu'il faut aussi prendre en compte. Il y a plein d'expositions différentes, malheureusement, quand on prend les polluants éternels, quand on prend la pollution de l'air, quand on prend les pesticides. C'est plein de choses qui contaminent en vrai nos organismes. On n'est pas fait pour vivre dans un monde aussi pollué.
Et c'est un cocktail. Exactement. Il faut considérer le cocktail même si les doses sont dans une norme, le cocktail augmente justement les possibilités de corréler problèmes de santé et maladies environnementales.
Exactement, qui biaise les études. C'est-à-dire que ça devient compliqué de savoir à quoi est due la mort de quelqu'un. On est à 49 000 à 100 000 morts par an en France de la pollution de l'air, 9 millions dans le monde. C'est compliqué à chaque fois de pouvoir véritablement juger quelle est la cause du décès. Donc effectivement, moi, en 2023, paix à son âme, ma maman est partie et ça a été... ça fait partie des réflexions aussi de manière générale sur comment et là il y a un grand mot qu'il faut utiliser qui est le capitalisme produit une exploitation des corps, une exploitation des âmes, une exploitation de nos terres, et tout ça renvoie ensuite à une forme de précarisation et de fragilité de nos populations, de nos gens, notamment les populations issues de l'immigration postcoloniale. Mais c'est juste parce qu'il y a un besoin d'extraction de notre travail, de nos vies.
Nadine Roudil, quels sont les enjeux environnementaux dans les quartiers populaires ?
Pour moi, ce sont essentiellement des enjeux associés aux inégalités. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on aborde cette question comme si elle était dissociée d'autres éléments. La question des inégalités est quand même quelque chose qui parcourt les quartiers dits populaires, avec des questions économiques très très fortes. Et les enjeux sont aussi liés au fait que je trouve qu'il y a une invisibilisation de ce qui peut être fait dans ces quartiers pour des questions environnementales. C'est-à-dire que les populations ont énormément de ressources, elles ont aussi énormément conscience, en tout cas nous dans nos enquêtes on le voit, hein, des enjeux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient aussi énergétiques. Et c'est vrai que souvent, ça rencontre la question de l'économie et des ressources disponibles au sens quasiment financier pour pouvoir faire face à certaines crises qui sont parfois des crises énergétiques. Et il y a aussi une autre dimension, moi, qui m'interpelle pas mal, c'est que les quartiers dont on parle, ce sont des quartiers qui sont régulièrement en situation de rénovation, de reconstruction. Et c'est très violent. C'est-à-dire quand vous voyez votre lieu de vie dans lequel vous avez effectivement tous vos amis, votre famille, qui en permanence, et quand je dis en permanence, les premières mesures de la politique de la ville, elles datent depuis 1977. Et depuis 1977, on dit à des populations qui sont enracinées dans ces quartiers, on va rénover, mais aussi on va changer la configuration de l'espace. Et tout ça renvoie effectivement aux questions environnementales. Les premières confections, entre guillemets, hein, des grands ensembles étaient très minérales. Et maintenant, effectivement, on a d'autres modèles qui viennent, comme l'écoquartier par exemple, rencontrer ces politiques de rénovation. Et on se retrouve avec un univers naturel réintroduit de manière quasi artificielle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les populations, entre guillemets, hein, qui vivent dans les quartiers, on va dire populaires, ont un contact avec la nature. Moi, je peux vous donner une petite anecdote. Hein, quand je faisais ma thèse à la cité de la Castellane, un matin, j'arrive là-bas et je rencontre un monsieur qui sort de chez lui avec un fusil sur l'épaule et une musette. Et je lui demande, qu'est-ce que vous allez faire ? Il me dit, je vais chasser. Donc, il y a vraiment un lien avec l'environnement. Il y a un contact avec la nature. Et rien que le fait de dire ça, on présumerait presque qu'il n'y ait pas. Donc, effectivement, il faut pas confondre le fait que la fabrication, effectivement, de ces espaces qui ont été faits, c'est daté, hein, historiquement, et le besoin de nature qui est bien évidemment le même pour tout le monde.
Féris Barkat, quand on parle des quartiers populaires, on pense souvent à manque d'espace vert, des logements qui sont souvent des passoires thermiques, des situations que l'on retrouve aujourd'hui ici ou ailleurs dans le monde. Et donc, tout cela, vous le questionnez, vous le renseignez et vous donnez à comprendre avec l'association Banlieue Climat. Auparavant, et avant d'en parler justement, il faut aussi donner à comprendre que vous avez vous-même fait en sorte de vous former. Et donc, en intégrant, si je ne me trompe pas, en 2022, le Collège citoyen de France, est-ce que c'est vraiment à partir de là que vous cherchez à comprendre dans des rapports aussi du GIEC, de l'IBES, etc.
Ouais, je pense que dans la vie, il y a deux types de savoir. Il y a le savoir qui peut être théorique, le savoir un peu plus pratique. Et peut-être qu'à la base, moi, ma formation, elle a toujours été de lier les deux et de se dire comment, en partant du particulier, parce que peu importe la question, si on prend l'exemple de la division raciale du travail, par exemple, y a des gens qui l'expérimentent dans leur chair tous les jours. Ils n'ont pas besoin d'avoir de concept, ils n'ont pas besoin de comprendre la racialisation du capitalisme pour savoir que tous les matins, ils se lèvent pour faire des métiers que personne ne veut faire dans ce pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils expérimentent dans leur chair. Mais être en mesure d'adosser des concepts à ça, ça permet de dire, ok, donc de manière générale, voilà comment la société est divisée au niveau de son travail, au niveau de la production de nos habits, qui est-ce qui les fait, qu'est-ce qui les fait pas dans les pays du Sud, aujourd'hui en France, comment ça se divise. Donc ça, ça a été important pour moi de lier ce que je voyais sur le terrain à quelque chose de beaucoup plus théorique pour me dire que c'est comme ça qu'on crée du collectif. Là, ce qu'on est en train de vivre nous-mêmes, d'autres le vivent. Là, si on commence à parler des particules fines, des PM1, 1,5, 2, ces toutes petites particules, quand tu constates que c'est pas que à Strasbourg, c'est pas que à Bagnolet, un enfant sur trois qui a de l'asthme, c'est pas que à Marseille, c'est partout.
C'est pas que à Saint-Ouen.
C'est pas que à Saint-Ouen. Là, d'un coup, tu commences à comprendre.
Porte de Bagnolet.
Par exemple. À ce niveau-là, tu captes que c'est générique, que c'est général. Et quand une oppression fait système, c'est qu'elle est systémique. Et quand elle fait système, c'est là que tu comprends que tu dois pas te battre contre des individus, mais contre une manière d'habiter le monde, une manière de t'apprendre à exister. Et ça, je pense que ça a été important à travers le Collège citoyen, comme vous l'avez cité. Ça a été un moment où j'ai pu comprendre comment se structurer les organisations, les associations, pour vraiment un savoir pratique de comment créer une lutte, comment construire une lutte. Il y a des campagnes, on s'inscrit dans une histoire. Moi, je m'inscris dans une histoire de mon grand-père qui a lutté pour la libération de l'Algérie. On s'est battu contre l'impérialisme français. Tout ça, c'est des luttes qui nous ont traversées, qui nous ont habitées. Et ces luttes-là, elles ont fait qui on est. Et c'est pour ça que c'est important de réhistoriciser et d'avoir un savoir pratique, c'est-à-dire vraiment comment on construit une lutte. Et ça, le Collège citoyen a pu me l'apporter. Et puis, au fur et à mesure, j'ai essayé de aussi enrichir le savoir un peu plus théorique. On entendait avant la question de la formation qu'on a montée avec les jeunes de banlieue climat, et ça a été important aussi d'amener le terrain théorique, parce que trop souvent on nous relègue à cette question-là de l'expérience empirique. Racontez-nous ce que vous avez vu. Mais non, on est aussi en mesure de mettre des concepts, des chiffres. Nous aussi, on a le droit à la théorie, sans pour autant tomber dans des écueils. Et là, je m'arrêterai là-dessus, mais parfois même moi, je le fais. C'est de rentrer dans une posture de vouloir avoir une forme de crédibilité, de légitimité, à citer toujours plus de personnes, à utiliser des mots compliqués, parce que tu rentres dans un cadre, même si tu dénonces toute l'année le fait qu'on a le savoir et on est expert de nos propres vies, parfois, malgré toi, tu rentres dans un schéma où tu essaies de te surlégitimer. Et ça aussi, il faut faire attention. Et je voulais rappeler ici, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et de temps en temps, j'ai pas envie d'envoyer le message qu'en fait, il faut avoir je sais pas quel diplôme pour... ou conceptualisation pour parler.
Même s'il faut préciser que vous êtes depuis un an, c'est ça, enseignant à la Sorbonne.
Depuis septembre, oui.
Ah, septembre, voilà, c'est la première année.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et avec un public qui vous donnait justement à comprendre autrement ces questions et ces enjeux environnementaux et climatiques. Nadine Roudil.
Oui, je voulais juste contribuer aussi à cette discussion dans ce sens, parce que la question des savoirs est très importante et peut-être... pour faire aussi le lien avec la question précédente sur les enjeux, c'est de ne pas enfermer en fait les habitants dans une position surplombante. C'est-à-dire que les transitions, d'une manière un peu générale, ont tendance à mobiliser un langage d'experts qui va se retrouver confronté avec ce qu'on pourrait appeler un savoir d'usage. Il faut bien savoir, enfin, la question du savoir d'usage, c'est aussi plus la place que l'on donne à l'ensemble des populations et la capacité qu'on va leur donner de produire un discours sur leurs propres solutions. Et c'est vrai que dans les questions environnementales et surtout dans la réponse aux questions environnementales et aux questions énergétiques, se pose cette question de quelle place je vais donner aux solutions qui sont très opérantes, en tout cas, ou au petit bricolage, mais aussi...
Dans l'usage.
Dans l'usage, ou aux grandes solutions qui peuvent être pensées dans des dispositions complètement participatives.
La question aussi, c'est qui les pense aussi, parce que cette manière de penser, généralement, c'est pas quelle place on va donner, c'est parfois quelle place on va rendre. Parce que dans beaucoup de territoires, il y a les espaces notamment de réflexion, d'espaces de juste se réunir. Juste se réunir à Strasbourg, c'est compliqué pour nous. Pendant 3 ans, on n'avait pas forcément les salles, parce que les partis politiques, parfois, dans nos territoires, ils ont une main mise. Moi, je parle de système féodal parce que j'ai envie de les tailler un petit peu, mais j'en parle avec toute la rage que j'ai contre eux. C'est qu'en réalité, avec les subventions, avec les salles, avec la capacité de se réunir, on perd parfois notre capacité juste à parler de nos problèmes. Et du coup, si nous-mêmes, on ne parle pas de nos problèmes, eux, ils ont l'espace pour en parler à notre place. Et donc, en disant, regardez, votez pour nous parce qu'on va régler telle ou telle chose. Mais en fait, tout ce qui est fait pas avec nous, mais pour nous, c'est fait contre nous. Et donc, réussir à créer des espaces où on parle ensemble de ces thématiques-là, de ces sujets, c'est aussi important effectivement, la connaissance, on l'a, mais parfois, on n'a pas l'espace pour la partager.
Ou on n'ose pas.
Oui,
n'est-ce pas aussi prendre la parole,
barrière d'autocensure,
tout simplement parce que aussi maintenant de plus en plus dans les dispositifs politiques de la ville, la dimension participative est convoquée, mais c'est une définition très spéciale de la participation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cadrées, et lorsqu'on arrive dans des réunions publiques, les populations qui prennent la parole, elles sont aussi redoutées. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'antagonisme, de mise en face à face qui est extrêmement dommageable. Et aussi des populations qui prennent la parole à partir de ce qu'elles sont. Et il faut aussi qu'elles soient reconnues à partir de ce qu'elles sont.
Et donc ça veut dire que aussi la manière de parler,
voilà, c'est
la
ça,
manière
peu importe.
D'exprimer ça doit être aussi légitimée dans le sens où le Absolument. Cadre de la parole, par exemple, nous on avait cet exemple-là à Strasbourg, justement à Königshofen avec... je vais pas rentrer dans les détails, mais sur un terrain de foot qu'il fallait rénover. Et la seule manière d'expliquer qu'il fallait rénover ce terrain de foot, la seule catégorie audible d'expression pour la municipalité, c'était quelque chose de calme, posé et acceptable. Alors qu'en réalité, ça faisait des années que des gens jouent sur un terrain de foot où ils peuvent se ramasser directement sur du macadam, quoi, c'est pas ouf. Et donc, c'était compliqué de venir avec un discours calme. Et parfois, et ben, c'est aussi, dans ces espaces-là, réussir à ouvrir les manières de parler, les manières d'expression, parce que quand elles sont effectivement hyper cadrées et normées, on rentre dans un processus d'intégration qui biaise la parole, qui fait que c'est toujours les mêmes qui vont en parler, quoi.
Et donc, in fine, parvenir à être associé ou que chaque parole soit prise en compte pour ne pas être encore dans les laissés pour compte. Féris Barkat, on sent que c'est, il y a un sursaut générationnel peut-être, hein, vous allez nous en parler, que c'est matérialisé dans l'association Banlieue Climat. Avant d'en parler et de parler des objectifs de cette association, je vous propose d'écouter à nouveau un extrait justement d'une des vidéos pour comprendre comment se fait aussi cette formation, cette éducation. La question, ce n'est pas tant le message que le messager.
85 jeunes environ ont déjà suivi ici ou là dans le pays la formation proposée par l'association. Sensibilisation aux dangers qui menacent la planète, échange dans un langage commun et pour beaucoup, une véritable révélation.
À la base, le climat, en vrai, je vous en parle, vous êtes en mode...
Ouais, on s'en fout.
Il veut quoi, lui, tu vois? Et à la fin, on finit la journée. Et dimanche, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce déclic qui fait qu'à la fin, ils sont passionnés, ils ont envie de creuser davantage, ils ont envie de s'engager.
Si bien que pratiquement tous les jeunes formés rejoignent ensuite Banlieue Climat et portent à leur tour les messages.
C'est déjà le fait qu'ils l'ont fait sous le ton de la rigolade, qu'ils ne l'ont pas fait en mode école. Et ouais, déjà ça, c'était, du coup, on était plus impliqués. Tout ce qu'ils nous ont montré, c'est grave et du coup, ça nous a touchés en fait. C'est pour ça qu'on s'est autant accrochés à ce sujet.
France Culture. De cause à effet, Aurélie Luneau.
Féris Barkat, dites-nous en quelques mots, voilà, les origines de l'association, ses objectifs. On sent que dans la volonté de former, d'éduquer, c'est aussi de passer par d'autres façons de faire que dans des écoles un petit peu classiques.
Effectivement, je pense qu'on a essayé d'avoir notre propre méthodologie d'éducation par les pairs, par une forme d'identification très forte aussi des jeunes qui vont ressembler au quotidien d'autres jeunes à qui on va parler. Cette capacité de se dire qu'on est à la fois étudiant et professeur, expert et apprenant, c'est une double posture qu'on essaye de diffuser un maximum. On n'est pas les premiers à avoir inventé ça. Je me suis rendu compte qu'au Brésil, Paulo Freire, sur la pédagogie des opprimés et comment l'expertise des opprimés pouvait être aussi un vecteur de savoir, ça a déjà été théorisé bien avant nous. Mais en tout cas, nous, l'objectif, ça a été, il y a 3 ans, on s'est réunis avec trois autres cofondateurs. On a commencé à créer l'association, on était quelques-uns. Ensuite, on était une dizaine à Strasbourg, puis 60, puis 100, puis là, j'ai entendu 80, maintenant, on est 1200 jeunes formés, mais avec toujours les mêmes objectifs, éduquer, mobiliser et réparer. Éduquer, c'est comment on va être en mesure d'apprendre ce qui se passe, les violences qu'on vit, et de les diffuser. Donc on a formé des jeunes, on a formé des mamans aussi, sur leur quotidien, sur la question du mercure dans le ton, on en parlait avant, et ben elles ont monté toute une campagne elles-mêmes, donc la question de l'éducation était centrale pour nous. La question de l'organisation, il y a eu pas mal de jeunes, une fois qu'ils ont été formés sur leur territoire, parce que bon, le climat, effectivement, on a une école à Saint-Ouen, mais on essaie d'aller sur les territoires, aller voir les gens directement. On est allé à Laval, on a fait une formation il y a quelques mois, et aujourd'hui on est retourné fin décembre, et on a constaté que 6 jeunes de leur association de Banlieue Climat avaient créé leur propre association, Pop & Co 53, et ils sont en train de monter des ponts entre ruralité et quartier populaire, et c'est incroyable. Quand on regarde à Villeurbanne ce qui se passe, aussi une structure qui s'est montée récemment, la Maison des Brosses, ils sont en train de faire des formations pour les petits-enfants sur l'écologie. Donc en fait, nous on vient, après c'est plus nous. Donc l'organisation c'est ça, c'est être en mesure de donner les outils.
Former, éduquer et former des formateurs.
Exactement, ça c'est sur l'éducation effectivement. Et donc, mais la mobilisation sur les territoires, elle passe par une forme d'organisation aussi qui ne dépend pas de nous. Ça veut dire que nous on donne les outils éducatifs, culturels, émancipateurs et après ils les prennent. Et puis la troisième étape, je parlais de la réparation, réparer. Et ça c'est plus, on va dire, personnel, c'est un objectif parfois quand on est... tous ensemble en communauté avec des mamans, des jeunes et qu'on fait un voyage à vélo comme on a fait cet été entre Saint-Ouen et Strasbourg, et ben on est dans une forme de réparation un peu mutuelle qu'on n'a pas forcément reçu toujours assez d'amour, et ben on s'en donne plus que nécessaire. Et ça, c'est des moments qui sont magnifiques en fait, parce qu'on se... Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs à dire, mais on se prend dans nos bras, on parle de douleurs qu'on n'a jamais parlé avant. Et je pense que recréer de la communauté, là où en Occident, et même aujourd'hui avec les réseaux, il y a une forme de fragmentation des gens et des trajectoires de vie, c'est important.
Nadine Roudil, se réapproprier la question écologique, démocratiser les connaissances sur le sujet, sur l'environnement, sur la transition écologique, c'est ça les clés de la réussite aussi d'un mieux habiter les villes, d'un mieux vivre ensemble, tout simplement.
Bah, disons que ce que j'entends ici, c'est que on a l'impression que c'est une lutte permanente, c'est-à-dire qu'il y a une lutte à être entendue comme légitime à porter un discours. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre uniquement aux catégories populaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un petit peu ordinaire hein, qu'on retrouve assez. Et moi, ce que je trouve assez marquant, c'est que la jeunesse des quartiers populaires est beaucoup ramenée à des questions qui sont pas environnementales, justement. Et que on se retrouve dans une nouvelle lutte, hein, presque pour imposer l'idée que non, la question environnementale, c'est pas qu'une partie de la jeunesse, c'est toute la jeunesse. C'est vraiment tout l'ensemble des populations jeunes, et c'est presque paradoxal, parce que les populations qui sont les plus victimes des questions environnementales ou de précarité énergétique, on le sait, dans les quartiers populaires, c'est les plus de 60 ans. Donc du coup, il y a vraiment un effet générationnel que je trouve hyper intéressant dans ce que vous racontez, c'est effectivement ces relais intergénérationnels autour de la question qui sont indispensable. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions d'énergie, on s'est rendu compte dans les gestes d'économie d'énergie, hein, puisque c'est aussi là-dessus qu'il y a une focale de la part des politiques publiques, la socialisation ordinaire, première, était indispensable. Donc effectivement, qu'il y ait des mamans, c'est absolument classique, et je dirais ça se fait couramment, en quelque sorte.
Au-delà des jeunes, parce que c'est vrai que cet engagement des catégories populaires pour faire face à une crise énergétique et écologique, elle existe, et parce que les effets en plus les touchent plus que d'autres catégories. Puis on voit bien, les habitants sont dans l'obligation d'être dans l'anti-gaspillage, le réemploi, la sobriété, la réparabilité. C'est pas choisi, c'est une nécessité.
Oui, mais après, la question de l'engagement, c'est quelque chose de... Si on voulait le définir, c'est d'abord la prise en compte d'un péril, la prise en compte d'un danger pour la planète, mais aussi cette conviction de se dire qu'il faut modifier radicalement les choses. Et c'est pas facile de faire ça. C'est-à-dire que tout le monde ne le fait pas, déjà. Et ensuite, ça veut dire qu'on va adopter des règles de vie différentes, et surtout... qu'on va se responsabiliser individuellement, mais au service d'un collectif. Ce qui est différent des politiques publiques dont vous venez de parler, oui, avec ces histoires d'incitation,
c'est ça,
où on vous fait reposer sur les épaules, en quelque sorte, des mots qui ne vous appartiennent pas. Dans l'engagement tel qu'il est décrit, on est bien dans quelque chose qui va déboucher sur un collectif, des partages d'informations, une circulation assez inédite d'informations.
Un maillage même des réseaux à l'échelle nationale, et puis peut-être même plus loin, s'il y a des émules dans d'autres pays.
On est parti à l'international, on est parti au Brésil, en Italie, en Allemagne.
Mm-hmm. Et c'est pour ça que je m'en doutais un peu. En tout cas, Féris Barkat, on comprend bien cette façon de pratiquer aussi l'écologie des premiers concernés. Les impacts du réchauffement climatique touchent et vont toucher plus largement les plus pauvres. Et alors, j'ai relevé que vous aviez une marraine, et là aussi, pas des moindres, Laurence Toubiana, l'économiste, haut fonctionnaire française, ambassadrice à qui l'on doit l'accord de Paris, de la COP21 en 2015. Je vous propose de l'écouter.
La société, elle avance plus vite que la politique. On ne peut plus avoir des responsables politiques qui pensent que bon, c'est trop difficile, qu'il faut attendre, qu'il faut céder ici et là, et d'avoir des politiques aussi incohérentes, qui continuent à donner des subventions aux énergies fossiles. La bonne nouvelle, c'est que les Français sont prêts au changement et pensent, dans leur grande majorité, qu'il faut accélérer ce changement pour lutter contre le changement climatique.
Féris Barkat, Laurence Toubiana.
Elle est trop chou, sa petite voix, là. Non, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens comme ça qui nous soutiennent, mais qui nous soutiennent aussi avec la bonne posture. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand depuis avant, on parle de quoi ? On parle de lutte choisie ou de lutte subie. Mmh. Et la question de la lutte subie, parfois, elle nous met dans une posture où on accepte toutes les mains tendues. Et toutes les mains tendues sont pas bonnes à prendre. Parce que quand t'as une main tendue et que du coup, tu te dis, en fait, c'est bon, je vais pouvoir avoir un financement, mais ce financement va être contre-éthique vis-à-vis de ton projet ou ça va être problématique. C'est difficile de bien choisir les mains tendues. Et là, en l'occurrence, Laurence Toubiana, ça fait partie des personnes qui nous ont soutenus, mais qui nous ont toujours laissé porter nos combats haut et fort comme on le voulait. Et surtout, elle nous impose rien du tout. Ça veut dire que elle est au service de la lutte. Et c'est pas quelqu'un qui veut absolument récupérer le projet. Et nous, c'est important de manière générale de savoir avec qui on s'associe, avec qui on travaille. Parce que généralement, il y a aussi un grand risque dans nos sujets. Quand on crée du collectif, parfois, il y a de la division qui s'installe sur un mandat politique, sur une volonté d'avoir telle ou telle subvention ou tel partenaire. Ça va très vite, la récupération politique. Et nous, on essaie de lutter contre ça. On
est un collectif solide. Indépendant.
Voilà, c'est ça. Parce que trop vite, on a vu comment, récemment encore, sur les élections municipales, ils jouent aux chaises musicales avec nous. Ça veut dire qu'il y a une chaise pour plusieurs candidats de quartier populaire. Donc, ils en mettent quelques-uns sur les listes et ils disent, bah, allez-y. Et dans ce cas, nous, on se tire dessus. Bien sûr, même entre nous, on va se voir en bizarre. Et c'est arrivé. Ça veut dire que je ne vais pas citer d'exemple, mais il y a des municipalités où il y avait des listes, ils nous ont proposé des places. Et parce qu'un tel est arrivé, après, ça nous a mis en difficulté. Et entre nous, entre population de quartier populaire, entre population, entre arabes, on se regardait en disant, mais toi, t'es venu, t'es un ouf, en fait. T'as pris ma place. Mais à la base, il faut poser la question de pourquoi il n'y a qu'une seule place pour 5. Pourquoi il n'y a qu'une seule place pour nous? Pourquoi c'est pas nous qui prenons la mairie? Sauf que nous, on n'a pas forcément cette logique-là et on reste sur des enjeux d'ego qui sont logiques entre êtres humains. Sauf que c'est parce qu'à la base, la table, c'est pas nous qui faisons le plan de table.
Rester sur le projet collectif, sur la solidarité. Et puis on entendait Laurence Toubiana parler de cette question de l'écologie, du climat qui doit parler à tous les citoyens. Ce que vous tentez de faire, c'est de faire aussi en sorte que l'écologie ne reste pas une préoccupation de privilégiés.
Effectivement, oui, je pense qu'il y a un enjeu de désembourgeoisement de cette question-là, parce qu'il faut pas. On parle beaucoup de communautarisme, mais il faut aussi parler de la capacité que l'écologie politique a eue à organiser sa propre non-mixité, sa propre sécession avec les classes populaires, en ayant une vision très tournée vers la consommation, par exemple. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, comme ça, de parler de responsabilité et de culpabiliser les individus? On parle toujours de arrêter de consommer, mais à quel moment on parle d'arrêter de produire? À quel moment on commence à réfléchir à qui est-ce qui donne les autorisations de vol? C'est moi? C'est moi qui construis les avions? Non. Donc pourquoi on commence pas à remettre la responsabilité sur le système? Sauf que être en mesure de mettre la responsabilité sur les individus, c'est quand les individus ont du pouvoir d'agir ou un pouvoir de consommation. Et donc, c'est fondamentalement bourgeois. Et donc, c'est fondamentalement une vision qui se base sur une liberté individuelle supposée. Et ça, c'est une vision qu'ils nous ont installée et qui fait que généralement, c'est très connoté l'écologie. C'est très difficile. Et parfois, quand on va dans des territoires et on dit, on va vous former sur l'écologie populaire aujourd'hui, le mot même écologie, il repousse. Et il est compliqué à aborder. Donc je pense qu'effectivement il y avait un enjeu pour nous de se réapproprier cette question-là, de se sentir légitime et de se dire qu'on est les propres experts de nos vies et qu'on arrive à se battre là-dessus.
Nadine Roudil, rapidement, l'écologie, justement, ce mot, on voit bien qu'il peut être source de crispation alors qu'il ne devrait pas l'être.
Bah, disons que c'est dommage de ramener tout à une question complètement politique. Moi, ce que je trouve aussi important, c'est que l'engagement pour ces questions-là, c'est aussi d'arriver à trouver un équilibre. Un équilibre entre, effectivement, une vraie conviction de se dire que ben il est temps d'agir, et malgré tout, un paradoxe, puisque nous sommes tous des acteurs consommateurs. Et de ce fait, c'est pas... Effectivement, les gens les plus riches consomment plus, on le sait, hein, je veux dire, les chiffres de Oxfam sont extrêmement rudes, hein, les personnes qui sont les plus pauvres en France ont un impact de 3,5 tonnes de CO2. Les Français moyens sont dans le double. Et puis, si on passe aux 10% les plus aisés, je m'arrêterai là, on est à 15. Tonnes par individu. Je veux dire, les choses sont extrêmement claires. Donc, moi, je pense que il y a un vrai potentiel de conflit autour de cette question, et il faut arriver à déminer les choses. Et on les démine en se disant tout simplement qu'on est tous dans la même situation. On est tous des consommateurs, et également tous les produits du marché vert créent un vrai problème, puisque c'est associé à un coût économique. On serait capable de bien se nourrir, de bien se chauffer ou de bien se protéger, par exemple au sein d'un logement, que si on a beaucoup de revenus. C'est vraiment quelque chose de profondément inégalitaire.
Mais pour revenir sur la consommation, qu'est-ce qui produit la consommation? Moi, on est tous consommateurs, effectivement.
Oui.
Mais cette consommation, elle est incitée. Elle est favorisée. Je pense qu'à la base, on le voit très bien, c'est pas un besoin humain d'avoir autant d'habits, autant de jouets, autant de choses. Sinon, on pourrait pas juste réussir à historiciser un individu il y a 50 ans, il était pas comme nous. Ça veut dire bien qu'il y a quelque chose qui nous a motivés à consommer. Il y a bien quelque chose qui a des budgets de pub qui ont été mis en place, des influenceurs, tout un système marketing qui pousse à la consommation. Donc, je veux bien qu'on dise qu'on est tous consommateurs, mais quelque part, est-ce que cette consommation, elle est pas aussi créée?
On parle souvent de surproduction, surconsommation, mais c'est un vrai sujet. Et je vous propose, à ce stade de l'émission, Fériz Barkat, d'écouter votre choix musical. Vous avez choisi la chanson de Ouria Aichi. Alors, j'ai pas le titre, mais dites-nous qui est cette chanteuse algérienne.
C'est ça. Alors, je l'ai découvert il y a très, très, très récemment. Je sais même pas exactement quel titre on vous a envoyé, mais c'est une chanteuse algérienne qui n'utilise pas trop d'instruments et qui est absolument incroyable parce qu'elle a une tradition qui se orale, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de. Tout se traduit, tout se transmet à travers l'oralité, à travers l'orature. Nous, en Occident, on a la littérature, d'autres cultures ont l'orature, et je trouve ça fascinant de pouvoir voir comment cette chanteuse algérienne, qui est assez âgée maintenant, continue à
perpétuer les chants très rares et traditionnels. Cette chanteuse algérienne qui chante des chants sacrés de la région de l'Aurès et qui perpétue aussi ces chants très rares. Un choix musical d'un de nos deux invités, Fériz Barkat, cofondateur de l'association Banlieue Climat et enseignant à la Sorbonne. Et avec nous également Nadine Roudil, sociologue, professeure des universités à l'ENSA, l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Val-de-Seine, et rattachée au Centre de Recherche sur l'Habitat, équipe de recherche de l'UMR CNRS La Vue. Et donc, c'est la suite, bien sûr, vous l'aurez compris, du magazine de l'environnement de Cause à Effet sur France Culture, avec comme sujet aujourd'hui écologie et banlieue, entre injustice, violence climatique, comment des habitants s'engagent.
En tant que jeune de quartier, on se dit que le climat, c'est un truc d'élite. Genre, c'est pas un truc fait pour nous à la base. Et ce qui est bien avec cette association, le climat, c'est du coup l'aspect banlieue, le fait que ce soit des gens comme nous qui nous parlent et qui nous expliquent. Parce que si demain il y a quelqu'un qui vient je ne sais où, qui vient nous parler, on va pas le comprendre. Un, on va pas le comprendre, et deux, on va pas avoir envie de le comprendre, parce qu'on va se dire, lui, il vit pas la même chose que nous, et il a pas les mêmes soucis que nous, et du coup, il est pas comme nous, et on est différent.
Quand on a eu l'atelier, on a pu s'approprier les questions environnementales, et aussi développer son pouvoir d'agir, et mine de rien, quand on agit, ça nous redonne confiance en nous aussi, et on a ce sentiment de légitimité, de se dire ouais, en fait, on a des choses à dire, on a compris. Et
montrer que nous aussi, on peut faire les choses, nous aussi, on a du talent, et nous aussi, on est autant capables que les autres.
Et je pense que c'est important aussi que les jeunes se sentent légitimes, puisque les questions environnementales, climatiques, concernent évidemment tout le monde. Il n'y a pas une élite ou quoi que ce soit, et c'est à tout le monde d'agir et d'être force de proposition, et en particulier aussi les femmes, parce qu'on sait aujourd'hui que dans la lutte sur les questions climatiques, les questions environnementales, les femmes, elles sont au premier rang.
Parce qu'effectivement, ça nous concerne, ça concerne la jeunesse, mais ça nous concerne également nous tous.
Les solutions de demain, elles vont venir des quartiers. Mais pourquoi? C'est parce que les quartiers concentrent une grande partie de difficultés, des handicaps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve des solutions pour ces handicaps et ces difficultés qui existent dans les quartiers. Après, elles vont servir à tout le monde.
Féris Barkat, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la démarche? On avait là encore des témoignages dans une vidéo Banlieue Climat datée du 16 juillet 2024. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que vous pouvez faire face aussi à des réactions négatives parmi les populations que vous visez?
Non, pas vraiment. Je pense que quand tu viens avec la bonne intention, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, il y a l'échelle personnelle, où l'échelle personnelle, là, ça devient rester droit, ne pas être, se sentir exempt de toute forme de nous-mêmes répliquer des oppressions. Là, il y a eu des témoignages qui parlaient du fait de venir parler quand on ressemble à des populations qui ont les mêmes vécus que nous. Oui, mais parfois même nous, on pourrait répliquer une forme de paternalisme en disant « on sait mieux que vous ». Non, on n'est pas là pour ça. Et puis la deuxième difficulté, je pense d'un point de vue beaucoup plus général, d'un point de vue beaucoup plus collectif, c'est le fait de constater parfois l'abandon de certains jeunes, de certaines mamans, de certaines personnes qu'on accompagne, parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de donner l'espoir qu'on veut donner. C'est-à-dire qu'on veut donner de l'espoir, mais derrière, il faut des moyens, il faut des capacités, il faut des locaux, il faut du temps. Et ce temps-là, on l'a pas toujours. Et c'est triste de voir parfois des populations qu'on pourrait accompagner, des gens qu'on pourrait accompagner avec nous, et on n'a pas la force et l'énergie de continuer. Parce que trop vite, on va abandonner trop vite. On va avoir peur de parler trop fort, parce qu'on n'a pas l'occasion toujours de faire la continuité. Si on dit à ce jeune-là, bah, en fait, te laisse pas faire au travail. Te laisse pas faire dans ton milieu scolaire, te laisse pas faire dans ton milieu carcéral. Ok, mais qu'est-ce qu'on va proposer derrière? Qu'est-ce qu'on va avoir comme moyen d'accompagnement derrière? C'est toujours compliqué de faire la suite de l'accompagnement de public de premiers concernés. Donc nous, ce qu'on essaie de donner, c'est toujours cette révolte-là en disant ne vous laissez jamais faire, ne vous excusez pas, parce que c'est pas normal qu'on ait peur de pratiquer notre foi quand c'est le cas, qu'on n'est pas normal qu'on ait peur de prendre la parole et de s'auto-censurer comme ça. C'est pas normal que nos parents ou nos mères aient été dans des métiers de labeur et de ménage toute leur vie. C'est pas normal tout ça. Et cette anormalité-là, il faut la crier haut et fort, parce que tout le principe du système, c'est de la rendre normale, de la rendre légitime et de dire « Ah, nous, on voit pas la violence. Ah, nous, on n'est pas violent. Ah, nous, on n'est pas là pour... Il y a peut-être parfois des moments où ça déraille, mais votre quotidien, il est normal, il est du fait que vous méritez pas plus, et la méritocratie et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, on essaye de faire en sorte de donner une forme de révolte, mais le plus difficile, c'est que cette révolte-là doit s'accompagner de dispositifs, de moyens économiques, de temps, et que parfois, on ne les a pas.
Oui, une révolte qui n'aboutisse pas à une guerre civile, quelque part, ou à un sursaut de violence. Une révolte qui aboutisse quand même à des actions concrètes, à une respect et une légitimité de vos revendications. C'est ça, c'est finalement échapper au déterminisme, c'est un combat de tous les jours.
Effectivement, après on n'est pas là non plus pour civiliser les manières de réagir, ça veut dire que c'est pas le but de dire on n'est pas là pour que la révolte soit pas une forme de colère, ça peut être une forme de colère, par contre elle doit être dirigée vers un projet, vers quelque chose qui émancipe. Et effectivement c'est là où ça devient compliqué, parce que généralement ça va être enfoui en soi, ça va venir créer des troubles mentaux qui sont pas considérés comme étant quelque chose comme de l'anxiété ou de la dépression, non, parce que ça c'est des catégories, on va dire, légitimes, cadrés, qui permettent à des gens d'aller chez le psychologue, Doctolib, tout ça, ok, effectivement, mais il y a d'autres formes de ressentiment, de colère, qui aboutissent à de la résignation, qui aboutissent à la perte de rêve, qui aboutissent à l'addiction, qui aboutissent à des violences intrafamiliales, qui aboutissent à des violences même entre nous. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est que cette colère-là, effectivement, il n'y a pas deux options. Il n'y a pas juste la colère entre nous ou l'adaptation et la suradaptation à un système violent. Non, il y a une troisième voie qui est possible. Et la troisième voie de la communauté, la troisième voie de vivre ensemble, la troisième voie de comment on s'émancipe par des outils, que ce soit culturel, économique, etc. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à reprendre et à rendre à nos territoires.
Nadine Roudil, comment vous voyez l'avenir ou le devenir, sortir la boule de cristal, de nos villes et des quartiers populaires? Je rappelle pour nos auditeurs que vous travaillez sur la place prise par la sobriété énergétique à l'échelle domestique et de la ville, dans des contextes de crise environnementale et climatique actuelle. Et j'imagine que les propos, les paroles de Féris Barkat résonnent aussi en vous, que vous avez pu en recueillir d'ailleurs des similaires peut-être.
Oui, complètement. C'est vrai que moi, j'aborde beaucoup la question à partir des politiques publiques, c'est-à-dire à partir de cette politique de la ville qui est devenue, on va dire, qui s'est saisie en tout cas des questions environnementales à partir de l'éco-quartier, on va dire depuis 2010. Donc les enquêtes qu'on a faites montrent plusieurs choses. C'est que l'éco-quartier n'est pas abordé pour sa dimension, je dirais, environnementaliste, mais pour sa dimension de possible remodelage de l'espace qui est nécessaire, c'est-à-dire que l'action est nécessaire. faire, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'insalubrité. Et de ce fait, quand on va voir les habitants, ben ils savent pas qu'ils vivent au sein d'un écoquartier. Ils le découvrent avec nous, et on se rend compte qu'il y a effectivement, en termes de sobriété, déjà beaucoup de choses qui sont acquises, c'est-à-dire que c'est aussi une population, comme je le disais en entrée d'émission, qui est sous le regard de l'institution, c'est-à-dire qui est susceptible d'être la cible de tous les messages de civilité, et entre autres ceux d'économie d'énergie, tout ça c'est acquis. Et eux-mêmes développent un certain nombre de pratiques, ça peut être, je me souviens très bien d'un père de famille qui avait compris que, et comme tous les pères de famille, hein, que les enfants sont peut-être un peu consommateurs, et du coup il avait créé un vrai système électrique parallèle pour chanter toute une série d'équipements. Donc tout ça, ça se fait, et ça se fait très bien, avec un vrai savoir. Et par contre, ce qu'il faut bien souligner, c'est que dans ces quartiers, il y a une auto-limitation. Et ça, c'est très important. Parce que il y a aussi une représentation que moi, je rencontre depuis 20 ans, c'est que les plus pauvres seraient les plus dépensiers ou les plus consommateurs. C'est juste impossible, en fait, quand on y pense sérieusement. Cette auto-limitation déplace la question environnementale vers un clivage de classe. Et de ce fait, on a véritablement des arrangements avec des questions de confort et des populations qui, une fois la rénovation faite, se trouvent parfois dans des dépenses énergétiques extrêmement élevées parce qu'on ne les a pas non plus prévenus que la rénovation allait leur coûter des sous.
Ah oui. Et puis il y a aussi cette envie dans certains quartiers, je sais que vous avez travaillé sur la cité de la Muette à Garges-lès-Gonesse ou encore à Lyon, l'autre quartier c'est la Duchère à Lyon, c'est ça. Je vous propose d'écouter ce reportage tourné donc dans le quartier de Garges-lès-Gonesse à la Muette, où on va pouvoir prendre conscience aussi de l'envie d'une partie de la jeunesse de ne plus être juste considérée comme des quartiers de violence, mais montrer qu'il peut y avoir d'autres actions bénéfiques aujourd'hui.
Inda Yadi est une enfant de la Muette, quartier de Garges-lès-Gonesse, un des premiers à avoir été nettoyé de ses déchets.
Ça faisait partie de l'environnement, donc c'est comme si tu voyais plus le déchet, tu vois.
Ouais. Chaque été, son association sensibilise les plus petits à la propreté dans les quartiers. Cette année, elle décide d'inclure les plus gros.
Moi, à Garges, il y a énormément d'embrouilles. Ils se défient par le biais de Snapchat, etc. Donc là, on s'est dit, on va reprendre leur code pour les détourner. Donc on se défie, on fait des photos, tu sais, hyper ghetto, etc. Donc ouais, on va voir si ton quartier est le plus propre, patati, et tout ça. Au lieu de dire, ouais, on va voir si ton quartier est le plus chaud, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc on a repris ces codes et écoute ma foi, ça a bien fonctionné.
Le challenge Ma cité va briller est né entre les murs de son association Point de chute des jeunes de la ville. Inde travaille avec Adama. Après avoir voulu venger la mort de son frère, tué dans un règlement de compte, il est condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre.
Dans le Garges Clean Challenge, déjà pour soutenir, t'as vu, apporter ma petite expérience, entre guillemets, d'ancien du quartier.
Soyez motivés, soyez déter, nettoyons la ville de Garges, rendez-vous à 16h.
En fait, à chaque action qu'on mène, ça éteint le feu, on va dire. Ça veut dire, à descendre de mots, ça éteint le feu. Après, ça a repris, le Clean Challenge, ça éteint le feu. Après, on n'espère pas que ça reprend, mais à chaque fois, en fait, les jeunes, il faut leur apporter des choses pour pas qu'ils passent leur ennui dans les rixes.
Et c'est une belle symbolique, parce que là, c'est vraiment le côté ingrat. Donc, je viens ramasser les déchets de chez toi, alors qu'il y a quelques semaines de cela, je me battais avec toi. Donc, symboliquement, c'est magnifique, en fait.
Reportage diffusé sur France 24 le 14 octobre 2019. Nadine Roudil, on voit bien quand même cette envie de montrer une autre image que celle qui les réduit souvent, ces quartiers populaires, à la violence.
Je pense surtout qu'il faut... l'extrait qu'on vient d'écouter, il est vraiment évocateur d'un engagement permanent des quartiers populaires. C'est-à-dire que là, on met le focus sur les questions environnementales, mais les quartiers populaires sont engagés de toutes parts. Ça va des populations qui font des maraudes, ça va vers des solidarités diverses. Et la question environnementale, la question du traitement des déchets, de nettoyer un quartier. Pourquoi on nettoie un quartier ? Parce qu'il n'est pas nettoyé. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des services municipaux qui n'y vont pas. Alors après, on peut toujours convoquer la question de la sécurité ou de l'insécurité. Mais en réalité, la quasi-totalité des populations qui vivent dans ces quartiers subissent en premier lieu ces phénomènes d'insécurité divers qui sont souvent en plus soulignés de manière un peu bizarre, hein, parfois. Donc du coup, je pense que c'est pas tant de faire la démonstration d'eux, c'est d'être tout simplement dans une situation à peu près normale où quand son quartier est devenu invivable parce que recouvert d'ordures, ben effectivement on va s'organiser et on va le nettoyer ensemble. Mmh. Alors effectivement, après, il peut y avoir un travail plus particulier sur la place du déchet dans la filière du retraitement, par
tout
exemple.
Tout à fait.
Mais c'est quand même la question de l'engagement, elle est liée à ce que disait Ferris tout à l'heure. Il y a un vrai attachement au quartier. On s'engage pour ce qu'on aime. Et le quartier, on l'aime pour plein de raisons. Et de ce fait, eh ben, on va s'engager. Je vous rappelle, hein, le lien de ces quartiers avec l'éducation populaire depuis énormément d'années. C'est des quartiers qui politiquement étaient liés aussi à certains mouvements syndicaux. Donc, il y a une filiation dans l'engagement. Donc, ces enfants, ont vu aussi leurs parents, leurs frères, leurs sœurs s'engager. Donc, c'est normal que une fois que cet enjeu est conscientisé, ben, on y aille. En fait.
Et c'est aussi ce besoin de retrouver de la dignité, pour retrouver de l'estime de soi, de la confiance dans son avenir, que de s'occuper aussi de ses quartiers, et, comme vous disiez, à la fois propreté, verdir, sans souci aussi sur ces questions énergétiques, et de mieux vivre et de mieux être. Ferris Barkat.
Oui, bah ouais. Je sais pas forcément.
Même retour de terrain, c'est
non,
ça.
Non, je pense qu'il y a, pas une question forcément de montrer au monde qu'on est différent que ce que le monde a projeté sur nous. On sait qui on est, on sait ce qu'on défend, on sait tous dans nos territoires, dans nos familles, qu'il y a des grosses têtes, qu'il y a des gens qui ont fait des grandes études, qu'il y a des gens qui savent casser les codes. Donc la question, c'est juste en faire quelque chose de collectif. Ça veut dire que à force de vouloir montrer au monde et que le monde y reste fermé, il ferme les yeux à ce que nous on est, et ben parfois on se lasse, parfois on s'épuise là-dedans. Et je pense que tout l'intérêt, il est de dire, mais en fait on n'est pas là pour vous montrer à vous, on est là pour nous montrer à nous-mêmes, on est là pour rien prouver, mais on est là pour exister différemment. Et ces existences-là, ces modes d'existence, malheureusement, ils sont de plus en plus tournés vers l'individualisme, vers l'auto-entrepreneuriat, faire en sorte que on crée des mini macronistes un peu partout, et c'est pas intéressant, c'est pas vers ça qu'on veut aller. Ça veut dire que c'est pas ça qui va nous sauver, parce que pour combien de gens qui s'en sortent, d'autres restent. Donc la question de l'engagement, elle est pas de montrer qu'on arrive à faire qu'il y a des gens qui sont différents. La question de l'engagement, c'est de montrer qu'il y a un collectif qui peut être différent. Qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des catégories, dans des cases, en disant ah, il y a une exception qui a réussi à faire. Non, c'est pas une exception. C'est tout un collectif qui doit s'émanciper, et qu'en réalité on nous maintient dans des positions de subalternité qui sont pas carrées.
Et donc faire quand même en sorte que ces quartiers populaires ne restent pas cet angle mort dont on parlait de l'écologie. Donc ça nécessite quand même aussi des prises de position politiques, donc des engagements politiques mieux ciblés sur ces quartiers-là.
Oui, bien sûr. Et donc il y a une question de politique publique qu'il faut aller chercher. C'est nous qui devons aussi nous former, de la question de l'éducation. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on arrive à avoir des cercles de discussion, d'apprentissage, tous ensemble. Parce qu'effectivement, ces politiques publiques-là, comment les lois sont votées, comment ça se passe. Parfois, on est un peu éloigné, on comprend pas forcément, on sait pas comment ça se fait que dans ton quartier à toi, il y a pas forcément de entreprises de nettoyage qui va venir systématiquement. Comment ça se fait que le bus il vient pas à cette heure-ci, que le tram va pas jusqu'à chez toi. Tout ça, on le sait pas. Et donc si on s'en occupe pas, personne ne s'en occupera pour nous.
Et pour porter vos messages, il y a les réseaux sociaux.
À 20h30, la ministre arrive, on commence la soirée, ça veut dire quelques tables rondes, quelques présentations des acteurs qui nous ont fait confiance depuis le début et qui vont être un peu mis en avant pour dire qu'est-ce que la formation leur a apporté, mais aussi qu'est-ce qu'eux, ils veulent apporter sur les questions écologiques.
Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le climat, ça va tout changer. Alors, ça change des choses pour vous, et ça, vous l'avez vu avec les ateliers, mais ça change des choses pour tout le monde.
L'objectif de cette formation et de tout ce qui arrive par la suite, c'est que vous deveniez vous-même des ambassadeurs et que tout le monde puisse porter cette cause. Parce que ce qui nous attend, ça va être chaud. Et cette prise de conscience, on va la prendre ensemble.
Et le jour où on aura cette conscience individuelle, collectivement, on arrivera à réussir à transformer cette société. Les mots ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est de l'action.
Ferris Barkat, un outil indispensable pour atteindre vos cibles.
Un outil ?
Les réseaux sociaux.
Les réseaux, effectivement, ouais, c'est important parce que c'est comme ça que tu arrives à diffuser les messages. Mais les réseaux, attention, peuvent être aussi un moyen parfois cathartique qui va remplacer l'action. Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont faire de la propagande, de révolte, de révolution, de je sais pas quoi. C'est cool. Ça va nous soulager, mais c'est pas ça qui remplace l'action. Et ça peut parfois être une forme de consommation de la lutte. Et on doit pas rentrer dans la consommation de la lutte, on doit rentrer dans l'action, dans la mobilisation. Et c'est intéressant là d'entendre ces vidéos parce qu'on voit un peu l'évolution aussi de notre association. Souvent, au début, on était dans la demande parfois aux politiques, aux ministres, on était beaucoup en lien avec eux. Maintenant, on est de moins en moins. On essaie de s'émanciper en disant qu'on n'est pas là pour demander à l'oppresseur de presser un peu moins. On est là nous-mêmes pour s'organiser et lutter.
Nadine Roudil, la dernière question, il reste à peu près 45 secondes. Ça donne envie d'écrire aussi de nouveaux récits, ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires, mais pour que ça devienne des réalités.
Bah, disons que je crois qu'il faut travailler cette question de la solidarité, c'est-à-dire d'être dans une vraie transversalité à la fois des luttes et des personnes qui participent aux luttes. Sinon, on n'y arrivera pas. Je crois que les choses, elles sont assez claires. On est cette inquiétude, elle est partagée. Elle est partagée par toute la jeunesse, par les moins jeunes aussi. Et là, pour le coup, c'est aussi à nous de bousculer justement les murs qui sont en train d'être construits un peu à droite à gauche. Hein. Et je trouve dommage, hein, effectivement, qu'il n'y ait pas plus d'intérêt pour ces initiatives du point de vue politique. Hein,
Ouais, bah, nous, on a abandonné. Le point de vue politique, vraiment, leur intérêt, c'est plus notre problème.
Allez, c'est le collectif. C'est le collectif. C'est merci à tous les deux. Merci Ferris beaucoup. Barkat. Merci Nadine Roudil et à conseiller le livre de Sanaa Saitouli, Enraciné, un livre édité aux presses de la Cité. Et pour en savoir plus sur vous deux, sur vos travaux et découvrir les informations, la bibliographie en lien avec le sujet, direction, bien sûr, comme d'habitude, le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet.